Je voudrais commencer ce moment par une lecture d'un texte de Paul aux Colossiens. Puisque vous avez cru, puisque vous avez reçu, pardon, le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Attachez conformément fermement à la foi qu'on vous a enseigné, c'est se nourrir de la parole du Seigneur, mais de toute la parole. Cette parole, vous le savez, elle peut être généreuse, compatissante, enthousiasmante, ou bien alors difficile, voire dérangeante. Quelquefois, la parole nous bouscule et, comme on dit aujourd'hui, elle nous fait sortir de notre zone de confort. C'est le cas des paroles de Matthieu que vous avez déjà entendues, mais que je vais me permettre de relire encore une fois, au chapitre 5, au verset 43 et suivant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes, comme aux injustes. Les paroles du Seigneur, vous les connaissez, nous sont rapportées dans le chapitre 5, comme je viens de le dire, qui fait partie des trois chapitres qu'on appelle communément le Sermon sur la montagne. Et il faut bien le dire, elles sont parmi les plus dérangeantes de ce qu'on peut lire dans la Bible. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. Le premier choc passé, on s'interroge. Cette parole s'adresse-t-elle vraiment à nous? Et si elle s'adresse à nous, s'adresse-t-elle dans toute sa rigueur? Certains, conscients de la réalité de la perversion humaine, considèrent qu'il est impossible, dans la pratique, de satisfaire à cette exigence. Certains trouvent que cet idéal, certes noble et séduisant, est théorique et irréalisable. D'autres encore pensent que cette radicalité ne pouvait être qu'une manière de nous montrer à quel point notre péché nous éloigne de la sainteté de Jésus et que par conséquent nous sommes bien incapables de mettre ce qu'il nous dit en pratique. Ou bien alors, c'est plus courant, on peut être convaincu de la validité théorique, oui, de ces mots, mais être beaucoup plus hésitant quand il s'agit de les mettre en pratique. Ce texte veut-il dire ce qu'il nous dit? Que doit-on comprendre? Pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose de tenter de répondre à trois questions. C'est quoi aimer selon Jésus? Pourquoi Jésus nous demande-t-il d'aimer? Et comment peut-on faire pour aimer? Avant de voir ce que veut dire aimer, il faut replacer ce texte que je viens de vous lire dans son contexte. Le chapitre 5 commence, vous l'avez entendu aussi, par les béatitudes et se poursuit par des déclarations de Jésus qui sont présentées sous forme d'antithèse. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Ces paroles concernent à la fois le meurtre, l'adultère, la vengeance, la divorce, etc. Au début de ces antithèses, c'est-à-dire à partir du verset 17, Jésus nous prévient « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Autrement dit, Jésus précise ceci. Ce que je vais vous dire n'est pas opposé à la loi donnée par Moïse. Mais bien au contraire, je vais lui donner tout son sens. Je vais vous dire ce que ça veut dire vraiment. Lorsque Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, il cite ce qui est dans la loi, effectivement, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Jésus ajoute à ce texte, il ajoute en disant « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Loin de supprimer ce qui existe dans la loi, Jésus dépasse cette loi. Il va au-delà. Il élargit le commandement du Seigneur. Alors, revenons au mot aimer. Le mot aimer, dont il est question dans ce texte, est traduit du grec, c'est l'agapé. C'est le mot agapé qu'on trouve dans un verset très connu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous connaissez la suite. Agapé, ça désigne l'amour divin, l'amour inconditionnel. Il n'attend rien en retour. L'agapé est donc un amour altruiste qui a plus à voir avec la compassion et la bienveillance qu'avec l'affection. Le mot amour agapé ne traduit pas un sentiment, il n'a pas de contenu affectif. Amour agapé, c'est cultiver à l'égard de l'autre la bienveillance. C'est écarter tout a priori au moment de notre rencontre avec lui. C'est aller au-delà de ce mouvement de rejet de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Aimer selon l'agapé, c'est aussi reconnaître que celui qui me fait du mal n'est pas tout entier dans ce mal. C'est enfin un amour qui pardonne. Martin Luther King disait « L'agapé n'a rien de naturel. Il n'a rien à voir avec une quelconque émotion tendre ou sentimentale. L'agapé recherche le bien du prochain et surtout celui de la communauté humaine. Il est le fruit d'une rigoureuse discipline. » Heureusement, Jésus ne nous dit pas d'avoir de l'affection ni de l'estime pour nos ennemis. En effet, comment pourrait-on estimer quelqu'un dont le but avoué est de nous faire du mal? En disant « aimez vos ennemis », Jésus n'ignore pas la difficulté de ce qu'il nous demande. Non. Mais il veut dépasser ce commandement d'aimer notre prochain tel qu'il est compris par les personnes à qui il s'adresse et surtout par les religieux. Non, mais il veut dépasser ce commandement. D'ailleurs, quelques versets plus haut, chapitre 5, il a déjà averti ses auditeurs, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mieux que. À cette époque, obéir à la loi, ça voulait dire surtout s'abstenir de faire le mal, de garder rancune, de se venger. Pour Jésus, il s'agit de faire plus que de s'abstenir. Il faut être actif. Et moi, je vous dis aimer. Nous sommes appelés encore aujourd'hui à découvrir la vraie signification de ces mots. Et nous devons chercher avec passion et courage à les vivre dans nos vies quotidiennes. Je dis quotidienne parce qu'un danger nous guette. En effet, bien trop souvent, nous sommes tentés par une religion de l'arrangement, du compromis. Nous n'hésitons pas à traficoter la volonté de Dieu pour en faire quelque chose qui soit à notre portée. Et pourtant, nous savons que Jésus nous engage sur la voie difficile de la sainteté. Il veut faire de nous la lumière du monde. Cette exigence de perfection à laquelle nous sommes appelés et vers laquelle il nous faut tendre s'accommode mal de petits arrangements avec cette parole. Cette parole qui nous dérange et qu'on voudrait modeler à notre guise. Oui, ces mots sont difficiles. Mais je ne pense pas que Jésus soit venu parmi nous pour dire des choses qui nous arrangent. Alors, même si la porte est étroite, il faut néanmoins s'y risquer. Deuxième point dont je voulais parler, c'est pourquoi. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'aimer nos ennemis? Alors relisons notre passage. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, et ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Et ainsi vous vous comporterez vraiment. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si on ne se comporte pas comme des enfants de Dieu. D'accord avec moi? Je n'aime pas mes ennemis pour qu'ils m'aiment, mais parce que Dieu les aime. Jésus ne nous dit pas que tous les hommes vont devenir mes frères, ou que les ennemis, mes ennemis, vont devenir mes amis. Les méchants vont devenir des bons. Les injustes deviendront des injustes. Non. Mais il nous renvoie à l'amour du Père pour nous et pour les autres. L'amour de Dieu est large. Et il veut que sa famille s'agrandisse. Il veut agrandir le cercle à ceux qui sont dehors, pour qu'ils puissent bénéficier du bien qu'il y a à faire partie de sa famille. Et ici, je me permets de le lire un commentaire de Christophe Paya sur le texte en question. Si par les rayons du soleil et l'eau de la pluie, sa bonté touche toute la création sans discrimination, alors les enfants sont appelés aussi à ne pas choisir ni exclure certains de leur amour et de leur prière. Et il continue ainsi, « Comme la lumière du soleil et l'eau de la pluie, l'amour du Père Céleste pour ses enfants touche aussi ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu et qui n'ont pas accueilli le royaume des cieux. Si la bonté de Dieu et son amour touchent tous les hommes, pourquoi ne pas l'imiter et pratiquer, nous aussi, l'agapé ?» Rappelons-nous, Dieu nous aime alors que nous étions ses ennemis. Rendez-vous compte. Nous, ses ennemis, Dieu nous a aimés quand même. Alors, si nous adorons un tel Dieu et si nous croyons qu'il nous aime à ce point-là, pourquoi ne pas le croire et faire ce qu'il demande quand il nous dit aimer nos ennemis? Voilà ce que Jésus veut que nous fassions. Nous n'y échapperons pas. Nos contorsions intellectuelles n'y feront rien. Nous devons conquérir la haine par l'amour. Nous sommes clairement appelés à réorienter notre vie en fonction de la vie voulue pour nous par Jésus. On ne peut pas dire « moi, j'adore Jésus » si on n'est pas décidé à écouter ce qu'il nous dit et à suivre. En nous demandant d'aimer nos ennemis, il nous dit d'abord « N'écoute pas ce qui se passe en toi. La rancune, la vengeance, pélétère. Vous pouvez, avec mon aide, gérer cette colère qui ne veut pas s'éteindre en vous. Il veut que nous changions notre manière de voir les autres. » Lorsque Jésus nous parle de l'amour du prochain, il veut dire que le prochain, c'est celui qu'on trouve sur notre route. Aimer notre prochain, c'est aimer l'autre. Celui que nous rencontrons, même s'il est notre ennemi. Répondant à la question « Quel est le plus grand commandement ?», Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ainsi donc, l'amour bien compris de notre prochain, même s'il est notre ennemi, est un des piliers de l'obéissance à Dieu. Alors, comment faire pour arriver à aimer nos ennemis? Vous le savez, notre pays n'est pas soumis à une quelconque persécution religieuse. Et personnellement, je ne sais pas ce que je ferais si ma vie, ma liberté, était en jeu face à des ennemis qui voulaient ma peau en raison de ma foi, comme on l'a entendu à plusieurs reprises. Ou plutôt, je sais ce que je ferais en théorie. Mais en pratique, je ne sais pas du tout. Nous sommes appelés, chacun de nous, à chercher cette marque divine au fond de toute personne, y compris nos ennemis. Pour ce faire, il n'existe pas de long catalogue de choses à faire, mais Jésus nous donne néanmoins des indications. Et on peut trouver ces indications en relisant l'évangile de Luc au chapitre 6. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. faites du bien, bénissez, priez ceux qui vous maltraitent. La première chose qui frappe, c'est que Jésus met l'accent sur autre chose que de s'abstenir de tout mal. Là, il nous demande de faire. Faites du bien, bénissez, priez. Ce n'est pas une attitude passive. À partir de ce texte, nous devons explorer les voies qui s'offrent à nous pour répondre à cette question. Comment ? Comment faire pour aimer ses ennemis ? Pour nous aider, je crois que l'expérience des autres est pertinente. Leur exemple peut nous aider et nous fortifier. En effet, je pense que nous avons beaucoup à apprendre des frères et sœurs dans la foi qui vivent la persécution, sont confrontés à la ségrégation, aux violences physiques et morales de la part des autorités, mais aussi de leur famille, de leurs voisins. Les chrétiens persécutés savent de quoi ils parlent. Ils ont vécu et vivent encore des situations tragiques. Battus, emprisonnés, tués ou blessés, ils nous livrent un témoignage qui nous bouleverse, mais qui nous enrichit. Nous avons écouté tout à l'heure le témoignage de Gladys, du Kenya, dont le mari Benjamin a été tué et brûlé. Écoutons-la. C'était horrible. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais plus parler, plus penser. Et elle trouve cependant la force de prier. Seigneur, donne-moi de vite pardonner et d'avancer, de ne pas rester sur cette douleur, sur cette colère. Gladys nous dit que Dieu s'est occupé de sa souffrance, de ses larmes, et que depuis, elle est en paix. J'ai demandé et permis à Dieu de m'aider à pardonner, dit-elle. Et elle tire une leçon de ce qu'elle a vécu en disant « L'amour plus le pardon, c'est la vie. La haine ajoutée à la rancœur, c'est la mort. » Elle reprend ainsi ce qu'écrivait Martin Luther King. Encore. Rendre la haine pour haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde encore à une nuit déjà privée d'étoiles. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Seule le peut l'amour. Je retiens de ces témoignages et de bien d'autres que pour ces personnes, l'amour des ennemis se traduit d'abord par le pardon, ensuite par la prière. Ou d'abord par la prière et ensuite le pardon. Aimer par le pardon parce que c'est la voie que suivit Jésus. Et parce que c'est la solution que Dieu met à notre portée pour retrouver la paix en nous. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Pardonner, c'est briser les murs d'hostilité qui nous séparent les uns des autres. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La lettre aux Éphésiens. Aimer la prière par la prière, parce que c'est aussi une demande de Jésus. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est le moyen de remettre nos ennemis entre les mains du Seigneur et de lui demander de toucher leur cœur, même si ça nous paraît bien improbable. Pourquoi alors ne pas croire que Dieu peut faire pour eux ce qu'il a fait pour nous ? Prions sincèrement pour leur conversion. N'ayons surtout pas peur que ça arrive. Et si ça arrive, gloire à Dieu. Parmi les témoignages de ces héros de la foi, entre guillemets, je ferai une place à Corrie ten Boom, cette jeune chrétienne hollandaise déportée à Ravensbrück pour avoir caché des juifs chez elle pendant la guerre. Sa sœur, déportée avec elle, est morte en captivité. Après la guerre, lors d'un rassemblement chrétien, elle est amenée à témoigner. Et après son intervention, elle s'est retrouvée face à face avec un ancien SS gardien du camp. Il s'approche d'elle, lui tend la main en disant « Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. » Stupeur et gêne de la jeune femme. Elle pense, moi qui avais si souvent enseigné la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps, je pris conscience de mon péché. alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus ? Seigneur Jésus, priais-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essayais de sourire, je m'efforçais de soulever mon bras en vain. Je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie et de charité. Je priais de nouveau en silence. Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. Et alors, raconte-t-elle, une chose extraordinaire se passa. Je pus lui prendre la main et le long de mon bras et jusque dans sa main, un courant sembla passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour. La prière pour les ennemis la plus connue, c'est à mon avis celle que prononça Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a donné l'exemple de l'amour des ennemis. D'ailleurs, à la grande consternation de ses disciples, il refusa d'organiser une résistance violente à ceux qui cherchaient à le mettre à mort. Au contraire, il leur a permis de le saisir et de le crucifier. Je laisserai le dernier mot à Paul. Romains chapitre 12. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas de mal. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.